Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Courtoisie dans les répliques. Je suis Valentin Gore, journaliste à Valeurs Actuelles, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui avec un maître, c'est le moins qu'on puisse dire, Michel Maffesoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, sociologue, auteur de Mes tribus, qui est le deuxième tome de vos mémoires. Le premier, c'était évidemment Apologie, aux éditions du Cerf. Nous allons en parler ensemble toute cette heure, avec cette phrase qui donne le ton du livre et qui est la dernière. Le temps des lys est arrivé, concluez-vous, on va voir pourquoi. Mais nous sommes aussi avec Henri Prévost, que je suis très heureux de saluer, qui est un ami et qui est surtout un chef d'entreprise, un homme d'entreprise, même je réhabiliterais cette expression franco-belge, qui opère dans toute cette région du Benelux, avec ces petits États qui sont... vous croyez beaucoup aux petits États, Henri, hein, on va le voir.
Les petites structures n'ont pas beaucoup de droit à l'erreur.
Voilà.
Donc je pense que on ne leur pardonne pas et elles font ça bien, je pense.
Bien sûr. Et puis nous allons évidemment parler de tout cela aussi avec Paul-Marie Couteau, s'il nous entend depuis sa Corrèze, non pas natale, mais lieu de résidence. Est-ce que vous nous entendez, Paul-Marie ?
Je vous vois.
Ah bon, voilà. Vous nous voyez. Ah bah alors, c'est formidable.
Bonjour à notre maître commun. Bah, je salue d'abord M. Prévost et puis je salue notre maître commun, Michel Maffesoli.
Salutations. Merci.
Je vais vous écouter d'abord. Je ne vais pas me mêler de la conversation tout de suite. Je vais vous fiche sur la paix et je vais boire vos paroles.
Merci Paul-Marie. Voilà, donc on aura la note à la fin, vous avez bien compris, hein, là nous sommes évalués, mais vous intervenez quand vous voulez, c'est l'avantage puisque vous êtes là.
Tout à l'heure, je voudrais demander à Michel Maffesoli donc, s'il a quelque chose à dire sur l'encyclique papale qui me paraît révolutionnaire. Non.
Ah non. Je peux dire quelque chose, mais ça vous déplaira certainement.
Déplaisez-moi pour une fois. À tout à l'heure.
Oui, reparlons-en en fin d'émission, parce qu'on va quand même, voilà. Vous avez mis... Michel Maffesoli, toujours des idées qui sont souvent, on dit à contre-courant, iconoclaste. On vous présente, vous êtes parfois un homme seul, hein. Vous avez été un homme seul dans l'université française avec des disciples, mais très contre la vogue, contre la mode. Vous le prouvez dans ce livre Mes tribus, qui est vraiment vos souvenirs, pensées, rencontres. Et tout part de ce village de Grèce-Sac, évidemment, dans vos Cévennes natales. C'est peut-être pour ça que vous êtes si différent des autres philosophes. Parce que vous n'êtes pas un mandarin, vous êtes vraiment un homme d'action. Oh. En quoi ce village a tant pesé sur votre œuvre ?
Permettez-moi d'abord de corriger, je ne suis pas un homme d'action. Je suis vraiment... J'ai raté ma vie, moi j'aurais dû être moine, tout simplement. Enfin.
Oui, un homme de réflexion, bien sûr.
La méditation, la vita contemplativa est ma caractéristique spécifique. Oui. Mm-hmm. Bon, oui, bien sûr, Grèce-Sac, c'est mon petit village Cévenol, là où je suis né, là où j'ai ma maison, où je vais me ressourcer régulièrement. Et c'est là où j'ai puisé tout ce que, par après, j'ai écrit dans mes livres. Hein, et cette sagesse populaire qui m'a marqué. Et sagesse populaire qui, dans le fond, choque encore profondément les intellectuels. Voilà. Alors, en ce sens, vous m'avez dit, j'étais, je ne sais pas ce que vous avez dit, marginal, non ?
Marginalisé, en tout cas, on pourrait dire, par l'officialité, quand même.
Oui, bien sûr, oui. Vous savez, pour moi, il y a une société officielle, celle des institutions, et puis il y a une société officieuse, celle que j'ai essayé de décrire. Mmh.
En gestation, dites-vous.
Je dis centralité souterraine, c'était ma thèse d'État à l'époque. Je m'inspirais de Simmel, un penseur allemand, qui parlait du roi clandestin de l'époque. Et moi, pour ma part, je me suis employé à décrire ce roi clandestin, hein, c'est-à-dire ce qui est le substrat de toute vie fondamentale.
Qui est Dionysos pour vous,
d'une certaine
façon.
Alors, il se trouve que la figure emblématique est mon petit dieu chéri, Dionysos. Voilà, c'est sûr.
Voilà. Parce que vous avez écrit évidemment beaucoup de livres. On peut citer Le Réenchantement du Monde, Le Temps des Peurs, L'Ombre de Dionysos. Très beau livre, à mon avis, le meilleur. Et vous en êtes venu. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des mémoires, ce deuxième tome de Mes tribus ? C'est cette épreuve auquel tout homme de réflexion, tout homme de lettres doit passer à un moment dans sa vie, de se retourner. Est-ce que d'abord c'est un exercice qui vous a paru facile ? Est-ce que c'est agréable de se retourner sur sa vie ?
Vous le savez, je me suis régalé, c'est tout.
Voilà, c'est votre mot fétiche, oui.
Je me suis régalé à l'écrire, oui, il me paraissait nécessaire de le faire. Hein. Mmh. J'ai 82 ans, donc j'ai quand même un bail derrière moi, j'ai écrit un certain nombre de choses, j'ai enseigné quasiment 40 ans à la Sorbonne. Sorbonne et à Strasbourg avant. Voilà, il me paraissait nécessaire, je dirais, en plus de la quarantaine d'ouvrages que j'ai écrits, je ne m'en souviens plus bien du nombre, à vrai dire.
Moi non plus.
Peu importe, pas la peine de chercher, le chiffre est peu d'importance, sauf quand il est ésotérique. Mais il me paraissait nécessaire de faire un bilan. Ouais. Et ce fut, en effet, l'an dernier, Apologie.
Titre socratique.
Oui, autobiographie intellectuelle, où je rappelle, dans le fond, j'ai eu cette chance d'être nommé jeune, j'avais 37 ans, professeur titulaire à la Sorbonne, donc j'ai été le collègue de Lévi-Strauss, de Deleuze, de Michel Foucault.
Vous avez connu Heidegger aussi, vous le racontez.
Ça, c'est autre chose. Heidegger, c'est parce que j'ai fait mes études à Strasbourg. Voilà. Et il s'est trouvé que j'ai eu à Strasbourg, disons, un maître qui est Julien Freund, polémologue, sociologue du conflit, qui lui m'a amené chez Carl Schmitt, puis quand il m'a donné la direction de son institut. Et puis de surcroît, j'ai fait ma thèse sur Heidegger, avec Lucien Braun, qui était un intime d'Heidegger. Voilà. Et donc c'est ce Lucien Braun, philosophe qui est mort il y a 2-3 ans, qui m'a conduit, comme je faisais cette thèse sur la technique chez Heidegger, qui m'a conduit chez Heidegger, que j'ai rencontré 4 fois, soit à Fribourg, soit à Tournalberg, de campagne.
Voilà. La technique, évidemment, alors c'est un peu Prométhée contre Dionysos, ça c'est intéressant, on va y revenir, parce que vous avez beaucoup surpris récemment chez Pascal Praud, beaucoup de gens, parce que vous avez parlé de la violence, en des termes qui ne sont pas tout à fait habituels, puisque vous pensez que la violence est non seulement inhérente à la société, mais qu'elle peut parfois déboucher aussi sur des choses intéressantes.
Oui, écoutez, ma position, vous le savez, je le redis, ça a chagriné nombre de mes collègues. Quand on est sociologue, on est de gauche. Moi, ce n'est pas mon cas. Hein, voilà.
Oui.
Et donc, je disais, ni judicatif, ni normatif. Bien. Et dans la foulée de ce que je viens de dire, Lucien Freund, j'ai travaillé sur la violence. Un de mes essais s'appelle « Essai sur la violence banale et fondatrice ». En prenant une idée fort simple, vous avez compris que moi, c'est la sagesse populaire qui m'inspire. Hein. L'animal humain est un animal. Donc, cette agressivité, il faut que ça sorte d'une certaine manière. Et les sociétés équilibrées... Donc, moi, je ne suis pas contre, contre la violence, je dis, c'est une structure anthropologique, un élément constitutif de ce que nous sommes,
oui,
de
ce qui se fait. Vous ne prenez pas parti.
Non, non, je ne vais pas justifier forme que ce soit, mais tout simplement dire, repérons sur la longue durée que les sociétés équilibrées furent celles qui ont su ritualiser, homéopathiser la violence. Hein, la vieille idée d'Aristote, la catharsis. Hein,
bien sûr,
il faut la purger.
Au moyen du théâtre, de la fête.
Le carnaval, la fête des fous, les fêtes d'inversion multiples et diverses. Moi, je me suis battu, pas vraiment, mais disons, il y avait une ministre il y a quelques années, comment elle s'appelait, Ségolène Royal, qui avait supprimé le bizutage. Je me souviens d'avoir un débat avec elle en disant, moi, je suis pas forcément pour le bizutage, mais si vous supprimez cet élément-là, c'est un moment où justement cette violence sort, cette catharsis. Et que si on ne fait pas cela, et c'est ce qui est en train de se passer actuellement, hein, une société par trop hygiénisée, pasteurisée, c'était ma thèse d'état à l'époque, la violence va surgir, mais d'une manière perverse. En latin, pervia. Ça prend des voies détournées. Et du coup, elle devient sanguinaire. Ce qu'on a vu ces derniers jours en sont pour moi une expression achevée. Et bien d'autres exemples que l'actualité nous donne. Et vous avez compris, pour moi, c'est parce que justement, on ne sait pas la gérer.
Voilà.
Cette violence structurelle, j'ai dit bien.
C'est un des grands défis de notre société. Vous avez dit être un sociologue de droite, ça paraît presque un oxymore, mais je vais poser la question un instant à Henri Prévost, qui lui est un homme d'entreprise de droite, ce qui semble moins un oxymore, mais tout de même, parce que vous détonnez, cher Henri, et on va revenir évidemment, Michel Maffesoli, à votre livre dans un instant, vous détonnez parce que vous avez une parole très claire, très net, très carré, dans un monde de l'entreprise qui est particulièrement aseptisé aujourd'hui, aseptisé par le langage, par un langage très anglophile, c'est le moins qu'on puisse dire, et avec des expressions comme ça, où on arrondit les angles. Vous croyez à cette parole un peu, là aussi, organique, hein, qui vient du cœur de l'homme?
La question est simple, c'est que on nous rappelle souvent dans l'entreprise, entreprise-société, qu'il y a un manque de sens. Or, le sens, c'est deux choses. c'est la définition du mot, et c'est la direction. Mais le manque de sens, si vous n'utilisez pas le bon mot, vous n'emmenez pas les personnes au bon endroit. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on déclenche une violence inouïe, parce qu'on essaye de lisser toute la population, de lisser toutes les classes, pour que tout le monde soit le même. Et d'un autre côté, on vous dit qu'il faut accepter toutes les différences. Donc à un moment, il y a une perte de sens dans le mot, et une perte de sens dans la direction. Donc je pense que il faut utiliser les bons mots, mais encore faut-il avoir le temps de le faire, puisqu'on est dans l'immédiateté. Mmh. Et encore faut-il avoir la possibilité de le faire, puisqu'on vous donne la bande passante ou la fenêtre de tir.
Et l'entreprise, ça vous paraît être le bon endroit pour le faire? Ça vous paraît être un terrain... On peut vous définir comme un catholique social, par exemple, vous qui êtes un homme du nord de la France.
Oui.
C'est un courant qui est un peu éteint aujourd'hui, qui est moins présent qu'il ne le fut.
Peut-être pas éteint, mais plus discret. Plus discret, parce qu'il y a des corporatismes ou des franges de la population maintenant qui sont plus bruyantes.
Mmh.
On parlait de violence tout à l'heure, mais pour en revenir à votre question qui est simple, le monde de l'entreprise, pour moi, si je prends l'entrée en matière de Maître Maffesoli, c'était de parler du moine.
Oui.
La journée du moine se divisait en quoi? En trois pôles. Le travail, la réflexion et le repos. Je pense que c'est totalement déséquilibré. Donc pour moi, l'entreprise, le tiers de la vie d'un homme, c'est dans son travail, dans l'entreprise. Et c'est là où c'est important sociologiquement.
Bien sûr, bien sûr. Alors c'est intéressant, cette expérience monacale. Qu'est-ce qui vous en a déboussolé, démarqué, Michel Maffesoli? Peut-être une certaine rigueur
Pas du tout, ça, c'est la vie hein, qui ouais. vous amène quelque part, il vous en éloigne.
Vous citez cette phrase de Léon Blois, « Le hasard, c'est l'autre nom du Saint-Esprit », je cite de mémoire.
Moderne du Saint-Esprit.
Non moderne du Saint-Esprit, très belle phrase.
Et Einstein disait quelque chose de semblable, oui. « Le hasard, c'est Dieu qui avance incognito ».
Très beau, bon, très voilà.
Beau. Non, mais tout simplement jeune, j'étais dans un collège religieux et attiré par la vie monacale. J'allais de 60 à 64, je suis allé à Incalcat, qui est un monastère bénédictin, Subiac, de la stricte observance. Et oui, j'ai failli rentrer. Hein. J'ai fait ce qu'on appelait un postulat, ce qui est avant le noviciat. Voilà. Et puis, il s'est trouvé que voilà, d'autres choses m'ont conduit ailleurs. Je ne peux pas vous dire quoi, c'est la vie intime à ce moment-là.
Bien hein. sûr.
Disons qu'en quittant Incalcat, d'ailleurs, ou en quittant ma région, d'ailleurs, c'est une chose amusante pour la vie contemplative. Il s'est trouvé que dans le village à côté du mien, et un de mes amis de mon collège était de la même famille que Don Ferdinand Vidal, qui était le grand prieur de la Grande Chartreuse.
Mmh.
Et du coup, j'avais écrit à ce prieur, et il m'a répondu, bien sûr, et je crois que je suis le dernier Français qui soit rentré dans la Grande Chartreuse. On ne rentre pas dans la Grande Chartreuse.
Hein, oui.
Il y a la Corrie, qui est à 3 km avant, où les touristes vont voir, qui est construite comme la Grande Chartreuse. Mais la Grande Chartreuse, et moi, je me vois encore, c'était en 64, tapé à la porte de la Grande Chartreuse. J'ai passé une nuit, je crois qu'il voulait me garder, ce grand prieur.
Ah,
ce prieur général, on ne dit pas grand prieur. Ce prieur général, et là non plus, je ne suis pas resté. Mmh. Voilà.
Il reste quelque chose du moine dans votre œuvre, y compris par des dimensions très, très terriennes. Parce qu'il y a quelque chose qui est très présent dans votre livre, dans plein de chapitres, c'est le vin, par exemple. Ah. C'est souvent ce que vous appelez des rencontres vineuses, oui, avec vrai. Heidegger, avec vos différents maîtres, comme Gilbert Durand. Ça compte aussi pour vous, toujours le retour à la terre, évidemment, qui vous marque
oui,
beaucoup.
Oui, ça c'est des problèmes, je dirais, personnels. Moi, je suis un ivrogne, personnellement. Donc, j'aime le vin, et je considère qu'à l'encontre justement, de cette asepsie qui a tendance à devenir un peu générale, c'est le vin ou l'alcool en général. D'ailleurs, moi, c'est le vin blanc qui m'intéresse.
Ouais.
Joyce disait c'est l'électricité de l'esprit. Il s'est trouvé que j'ai vécu en Alsace, et donc c'est le vin d'Alsace qui m'a beaucoup marqué. Enfin, et qui continue, d'ailleurs.
Qui continue, oui,
ce que je sers chez moi.
Oui.
Voilà, il s'est trouvé que, anthropologiquement, Vous avez cité Gilbert Durand, qui est un de mes maîtres, qui a montré comment le vin structure. C'est le symposium, le banquet grec. En grec, le mot symposium, je le dis à mes chers collègues qui ne comprennent pas ça, ça veut dire symposium, boire du vin ensemble. Voilà, donc du coup... Et puis, alors je rappelle là-dedans, outre mes soirées vineuses avec justement... Heidegger, avec Carl Schmitt, avec Julien Freund, je rappelle que, je sais pas, le premier miracle dans l'Évangile, c'est les noces de Cana, hein, par exemple,
oui,
où Jésus transforme l'eau en vin. C'est bien sûr ce grand moment qui est pour moi essentiel, l'Eucharistie, par exemple, hein, où c'est exactement le sang qui va devenir, le vin qui va devenir le sang du Christ, c'est tout à l'avenant. Voilà, je donne quelques exemples en ce sens pour rappeler que c'est une structure anthropologique. Et moi, je suis attentif aux structures
anthropologiques. Et une forme de convivialité, qui est une valeur à laquelle vous croyez beaucoup, une valeur populaire aussi. Je parlais tout à l'heure avec Henri Prévost de l'entreprise. Je crois que vous faites partie de ces hommes de réflexion, de ces philosophes, qui apprécient la compagnie, en général, évidemment, la compagnie des chefs d'entreprise. Vous avez avec eux des dialogues qui sont souvent féconds.
Il se trouve. Que je fais beaucoup de conférences pour des petits clubs d'entreprises. Là, j'étais par exemple à Namur il y a quelques jours. J'étais à Liège quatre fois.
J'étais à Namur, à la Citadelle peut-être.
C'était un club, c'est des clubs de chefs d'entreprise.
Il y en a beaucoup, oui.
De l'APM. Et donc, j'étais à Namur, j'étais à Louvain-la-Neuve, où, pas la Cato, hein, pas l'université, mais un club. À Liège, j'étais quatre fois, il y avait des clubs comme ça, de cet ordre. Et il s'est trouvé, en effet, que... alors qu'avec mes chers collègues, j'aurais plus rien à dire, parce qu'ils ont des systèmes de pensée, avec ces chefs d'entreprise, je hausse le niveau, hein, je maintiens mon discours, etc. Hein. Vous savez que mon grand-père était muletier, vous le savez peut-être
bien
pas.
Bien sûr, si.
Il disait, il hausse la mangeoire pour que ses ânes deviennent des chevaux. Donc moi, pour ma part, j'ai toujours haussé la mangeoire avec mes étudiants, avec des chefs d'entreprise. Alors par exemple, vous voyez, cher monsieur, un des éléments que je leur sors souvent, c'est le mot « sens ». Alors, bien sûr, vous avez dit « finalité ».
La définition et la direction.
Mais... il y a un autre, j'insiste, c'est aussi la signification.
Oui.
Et autant, de mon point de vue, par rapport à leur jeune manager, la finalité, ça ne marche plus.
Ouais.
Ce truc de demain, ce n'est pas important. Par contre, la signification, on oublie que le mot sens, ça signifie aussi signification. Hein, quand on dit le sens de la vie, machin chose, on continue à penser demain. On dit que la signification, eux, ils se rendent bien compte, ces chefs d'entreprise, qu'il faut mobiliser cette signification. C'est chez jeunes managers qui n'ont pas été éduqués comme eux l'ont été, vous voyez, par exemple. Voilà, c'est un petit exemple que je donne.
Le chef d'entreprise est le nouveau religieux, normalement. Le religieux, c'est celui qui rassemble.
Oui.
Donc...
Oligaré, oui, évidemment.
Y arrive-t-il ?
Ah, et alors, à votre avis, est-ce que l'entreprise peut rassembler ? Parce qu'il y a un lieu commun qui rejoint d'ailleurs, d'une certaine manière, vos thèses, Michel Maffesoli, d'une forme de violence dans la jeunesse, qui dit que les jeunes rejettent non seulement ce qu'on appelle la valeur travail, je crois que vous avez beaucoup à dire à ce sujet, et puis même, d'une certaine manière, la vie d'entreprise, l'idée d'aller au bureau, tout ça. Est-ce que vous pensez que l'entreprise peut encore rassembler demain ? Quelle est une bonne échelle ?
Je pense que, de mon côté, en tout cas de l'expérience que j'en ai, des chefs d'entreprise que j'accompagne et que je mentore, je peux dire que oui. Je suis actuellement dans deux missions d'entreprise où les collaborateurs que j'ai interviewés parlent de l'entreprise comme d'une personne. Ils disent... la société, elle a comme une personne.
Et c'est plutôt des sociétés enracinées dans un territoire industriel que vous connaissez.
C'est très familial, c'est très local, mais l'avantage, c'est qu'ils sont dans le temps long. Ils arrivent à prouver à des jeunes qu'ils sont dans le temps long, parce qu'il y a une ou deux générations, et je pense que c'est là où on va réussir à faire quelque chose. Il faut réussir à mixer la technologie, réussir à mixer le... En fait, les jeunes, il faut leur relever le nez de l'écran.
Ah.
Si vous voulez, M. Maffesoli disait « regarder loin, avoir une signification ». La signification, elle n'est pas dans l'écran, il faut relever le nez. Il faut se dire « tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir demain, qu'est-ce qu'il peut y avoir après-demain ?» Et c'est simple, c'est comme dans certains sports, vous allez là où vos yeux regardent.
Bien sûr. Michel Maffesoli, cette valeur travail, vous citiez, vous habitez le 5e arrondissement, mais je crois que tout le monde le sait, parce que vous donnez souvent votre adresse à la télévision, ou des indications, en tout cas, sur votre adresse. Je ne la donnerai pas exactement. Mais vous avez vu, parfois, dans des manifestations, puisque vous habitez près d'un boulevard où il y a beaucoup
Saint-Michel,
il y a beaucoup de manifestations, une pancarte au moment des retraites qui vous a beaucoup amusé, intéressé.
Je ne sais plus si je l'ai dit ou écrit, peut-être vous l'ai-je dit. Oui, moi, mon sentiment, cette pancarte, en effet, nous, la retraite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ne plus travailler.
Voilà. Intéressant.
C'est ne plus bosser.
Brandi par les jeunes gens.
Oui. Avant, il y avait la CGT, machin chose devant. Voilà, et puis après, il y avait ça qui, de manière humoristique, m'a beaucoup plu. Non, l'expression valeur... Je rappelle une chose suivante. Et c'est ce que je dis très souvent à ces chefs d'entreprise, d'ailleurs. Jusqu'à la fin du 19e siècle... le travail, c'était le truc pour les esclaves, le tiers d'État.
Bien sûr.
Et les classes serviles. Et un homme noble dérogeait s'il travaillait, par exemple.
Voilà. Oui, c'était une honte.
Et on voit comment c'est à la fin du 18e, début du 19e, je cite deux auteurs, Kant, pour ne pas le nommer, qui a une œuvre difficile, mais il parle des impératifs catégoriques, c'est-à-dire tu dois. Voilà. Et un des premiers impératifs, il y en a quatre ou cinq, il n'y en a pas beaucoup, tu dois travailler. C'est-à-dire, et la définition qu'il en donne est intéressante, tu ne te réaliseras que si. Réalisation de soi, réalisation du monde, c'est l'économie. Bien. Et à la moitié du 19e, Karl Marx, qui est aussi un grand théoricien du travail, dans le Capital, c'est lui qui crée cette expression « valeur-travail ». C'est pour ça que je me suis amusé à un président qui me convoquait de lui dire qu'il était marxiste sans le savoir. Je ne le nommerai pas, mais c'est lui qui a lancé cette expression « valeur-travail ».
Je peux peut-être le nommer pour vous, Nicolas Sarkozy.
Et à tire l'arigot, et je lui rappelais que cette expression « valeur-travail ».
Ça peut finir au bagne.
Pour moi, c'est fini, cette valeur-travail. Voilà.
Ça, c'est intéressant.
Et il faudrait un long développement que je ne peux pas faire ici, mais les valeurs modernes, c'est une des valeurs modernes, ce que j'appelle la modernité, mais qui est saturée. Et qu'on ne mobilisera plus d'énergie juvénile sur le mot travail. Voilà. Mais si je suis obscène, on peut faire travailler ce même jeune 18 heures par jour si on parle de création. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à ces chefs d'entreprise, je dis, arrêtez de parler de travail, ça ne marche plus. C'est fini. Par contre, l'idée de création, quand Google, par exemple, va imposer à tous ses employés de faire entre 15 et 20% du temps de travail de la poésie, littérature, boire le café avec d'autres, papoter, etc., il va réescompter cela. Tous les logos, c'est une manière de réescompter ce temps qu'il a perdu, si je puis dire.
C'est un peu des Cameron.
Voilà, quelque chose. Alors voilà, je ne vais pas aller plus avant, mais c'est un de mes leitmotifs. De rendre attentif au fait que ce fut une grande caractéristique, dans le sens fort du terme, le caractère, c'est l'empreinte. Des grandes caractéristiques de la modernité, c'est là-dessus qu'elle s'est élaborée, économie, voilà, et que maintenant, c'est fini.
Alors,
j'ai bien dit, moi, quand quelque chose cesse, quelque chose d'autre renaît. Décadence, renaissance. Voilà. Oui. Donc, de mon point de vue, il y a saturation du terme. J'ai bien dit, il n'y aura plus mobilisation d'énergie là-dessus. Par contre, sur l'idée de création, vous avez une multiplicité d'expériences. Moi, j'écoutais ce matin, hier, j'arrive pas à changer ma radio, un truc, radio économique, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Radio classique, peut-être.
Je ne sais plus, quoi. Qui parlait de cette économie qui se cassait la gueule, etc. 144 000 créations d'entreprises en France chaque année. Étant entendu, bien évidemment, que les trois quarts vont cesser demain, des start-up ou autres.
Ouais, le cycle de vie des entreprises est devenu de plus en plus court en Europe.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est là. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'énergie,
terreau.
Mais c'est plus sur la valeur travail. Je dis bien, ça, c'est quatre ou cinq jeunes qui se rassemblent pour créer ceci ou cela. Ils reprennent des vieilles idées archaïques, partage, échange, solidarité, etc., 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 qui ne sont pas des valeurs économiques.
Alors ça, évidemment, dans cette jeunesse qui se rassemble un peu par cercle, on retrouve votre idée, qui est le titre de ce livre, « Mes tribus ».
Ah oui.
Vous avez joué, évidemment, sur ce grand livre, puisque vous avez vraiment imposé cette idée des tribus but qui est une image, évidemment, pour dire que finalement, dans ces grandes villes, on se regroupe, comment dire, par affinité sélective, c'est ça, par groupe,
oui,
moi, par communauté.
Moi, ce livre qui a un peu marqué, hein, de
bien sûr, beaucoup même, oui.
1988, le temps des tribus, hein, eh bien... oui, il s'est trouvé que ça s'est diffracté. Maintenant, d'ailleurs, beaucoup de plagiaires, puisque je suis plagié à Tire l'arigot, oui, hein, oui. Utilisent ce thème du tribalisme.
Plus ou moins clairement, mais on retrouve le même thème.
Bien sûr, mais
c'est des variations sur un même thème.
Je ne sais plus, moi, la chaptalisation, non pas la chaptalisation,
l'archipélisation
d'un journaliste connu. Il travaille avec qui a été un de mes étudiants, oui. C'est des récupérations, voilà. Mais je prenais une idée simple, hein, je montrais avec mes chers collègues, maintenant beaucoup voulu, les ethnologues, que dans les jungles stricto sensu, la tribu, c'était pour serrer les coudes. Adversité animalière, végétale, d'autres tribus. Et que dans les jungles de pierre, que sont nos mégapoles contemporaines, la tribu a la même fonction. Voilà, c'est ça. Alors, avec une nuance par rapport à vous, cher ami en face, là.
Henri Prévost.
C'est que, personnellement, moi, je considère que l'écran est ce qui favorise ça. Voyez, c'est-à-dire que c'est sur les écrans, les réseaux. Réseaux sociaux, machin chose, etc., que se recréent ces petites tribus, hein, sexuelles, professionnelles, idéologiques, sportives, musicales, etc., et que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il y a que se confortent ces petites tribus. Voilà, c'est anecdotique, mais...
Oui, en tout cas, au départ, quand vous avez fait cette observation dans les années 90...
C'est le canal qui leur permet de germer, mais je pense qu'elles fanent aussi vite qu'elles ont germé.
Oui, mais... Vous voyez, je vais vous embêter un peu. Au 3e, 4e siècle de notre ère, hein, il y a trois religions à mystère. C'est l'abord, ce qu'on appelle identique, même structure. Hein, c'est Orphée, Mitra et le christianisme. Bien. Or, il se trouve qu'Orphée et Mitra, c'est les religions des riches, des officiers, machin, chose, etc. Le christianisme devait vite cesser, c'était les pauvres, les soldats sans grade, etc. Bien. Et Ernest Renan a une très belle analyse, c'est de lui que j'emprunte ça. Il montre qu'à ce moment-là, la petite église, on pourrait dire même la petite secte de Milan, va sécréter quelque chose que les gens de ma génération qui ont marqué au catéchisme, tout simplement, la communion des saints. Hein, le dogme, dit mieux, le dogme de la communion des saints. Ça veut dire quoi ? Bien, Milan, Narbonne, Lutèce, Luc de Noum, Rome, etc. Et que c'est parce qu'il y a eu cette union en pointillé qu'il y a eu le triomphe du christianisme. Voilà. Et de mon point de vue, j'ai écrit un texte là-dessus, un petit livre d'ailleurs, je montre que Internet... Les réseaux, les écrans, c'est la communion des saints postmodernes. Voilà, mon hypothèse.
Oui,
hein.
Oui. Vous voyez, c'est une nouvelle catacombe.
En gros, cette liaison qui va se faire, et que c'est ça, sur le moyen terme, peut-être le long terme, va être la société de demain.
Alors, avant que nous retrouvions Paul-Marie dans maintenant un petit quart d'heure, peut-être parlons un peu de politique, cher Henri Prévost. Alors, vous êtes franco-belge. Moi, j'ai longtemps pensé que vous étiez seulement belge et que vous aviez sur la France le regard souvent très fin que portent les Belges. Vous êtes en fait aussi français, mais vous vivez au Luxembourg et vous parlez souvent, ce qui peut rejoindre un peu ce que vous disiez, Michel Maffesoli, de ces petits États, justement, ces constructions qui, vous l'avez dit, sont peut-être plus agiles, plus mobiles. Comment on voit aujourd'hui l'état du monde depuis le Luxembourg où vous opérez, où votre société opère? Je précise que vous n'êtes pas dans le secteur fiscal, hein, pour
non,
vous prémunir de grands dangers.
La fiscalité devient mondiale maintenant. Ça devient. Mais bon, après, vous connaissez mes convictions, mais je pense que des pays comme la Belgique ou le Grand-Duché qui sont des royaumes ou des grands-duchés, je pense qu'il y a une approche, et on parlait de tribus, on se serre les coudes parce qu'on a encore le respect d'un... Personnellement, je suis royaliste.
Ah, on va y
donc,
venir.
Je pense qu'il y a un respect du chef, il y a un respect de la terre, il y a un respect d'une ligne qui se perd dans certains pays. Mm.
Et la monarchie, alors autant au Luxembourg, on a l'impression que la monarchie, enfin le grand-duc en tout cas, a vraiment un rôle très central, autant en Belgique, vu de France, on a l'impression que les choses se délitent un petit peu, mais ça a toujours été plus ou moins
si
comme ça la Belgique.
Si c'est vu de France et que l'on pense que ça se délite, il n'y a pas de problème, on peut encore beaucoup sourire, vous savez.
Bien sûr, bien sûr.
Je pense que le roi de France chez vous, On ne s'assied pas sur des baïonnettes, vous savez.
Oh là. Mais alors c'est très bien, parce que quand vous nous parlez du rôle de la monarchie, qui est symbolique, mais qui n'est pas seulement symbolique, parce qu'on a tendance, vu de France, à penser que les monarchies européennes sont seulement des espèces d'apparats sympathiques qui peuvent rassembler lors de grandes occasions. C'est
peut-être
beaucoup
un raccourci
plus profond.
Intellectuel, ouais,
c'est beaucoup plus profond, évidemment.
Il y a des valeurs, il y a des terres, il y a du concret.
Voilà. Il y a une espèce d'unité qui peut emporter peut-être les différentes tribus, justement.
Regardez le Benelux, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, les trois pays.
Oui, c'est vrai. Et on rejoint cette phrase, la dernière de votre livre, que j'ai trouvée si énigmatique, parce qu'on ne la voit pas venir, cette phrase, qui vient à la fin, à la fin de votre livre, « Le temps des lys est arrivé ». Alors, si je le mets en relation avec ce que vous avez dit la semaine dernière chez Pascal Pro, en expliquant que la République une et indivisible avait fait son temps, est-ce à dire que, d'une certaine manière, vous regardez l'idée monarchique, la monarchie, avec les yeux de Chimène, Michel Maffesoli?
Oui, vous avez compris, moi je ne suis rien du tout. Hein.
Oui, vous analysez, c'est vrai, vous prenez pas
ni partie. De gauche, ni de droite, voilà, je suis un vieil anarchiste, un vieux libertaire. Et j'ai cité hier, je faisais hier une conférence à l'Action française, pour tout vous avouer. Voilà. Et je rappelais ce qu'était l'œuvre de Maurras. Moi, je ne suis pas maurassien, mais j'ai chez moi, toute la bibliothèque, j'ai toute l'œuvre complète de Maurras, qui est pour moi un homme estimable et un théoricien qu'on peut difficilement citer. Moi, je le fais, mais qui me paraît important. Et Maurras avait cette belle idée de la monarchie. Hein, il montrait que le roi, pour la France, moi, je ne connais pas la Belgique, et bien, dans le fond... et même ce grand roi que fut Louis XVI, bien sûr, ce martyr, mais qui pour moi est un homme d'une grande qualité intellectuelle et humaine, bien, le roi avait cette fonction de rassembler les morceaux, si je puis dire. Mais rappelez-vous qu'en France, les assemblées restaient les assemblées. Hein, Aix-en-Provence, moi Montpellier, Toulouse...
Parlement des provinces.
Des parlements,
qui
etc.
Qui parfois
voilà.
pouvaient s'opposer au roi
exactement.
De France. Oui.
Et le roi, vous avez employé le mot qui convient... C'est un rôle symbolique, symbolé, hein, c'est ce qui va rassembler les morceaux. En quelque sorte.
Exact.
Et pour tout vous avouer, mon troisième tome qui paraîtra dans un ou deux ans, qui s'appellera
«
L'agonie de la modernité », et le sous-titre, ça sera « Vers un nouveau Moyen-Âge ». Et je vais reprendre ces idées de la royauté, c'est-à-dire cette union symbolique qui n'avait pas du tout la dimension... verticale, sectaire, bureaucratique de l'ENA, enfin pour dire des énarques. Vous savez que ma femme est énarque, la pauvre.
Oui, oui. Ça ne doit pas être facile parce que vous les critiquez beaucoup, mais
non,
c'est
mais
une énarque d'un genre très particulier.
On s'entend très bien. Je vous signale qu'on a écrit un livre ensemble qui s'appelle La faille des élites. Oui. Elle en tant qu'énarque, moi en tant que sociologue, machin chose. Voilà. Non, ce pour dire que, en gros, alors que la modernité a reposé sur cette verticalité, techno-bureaucratique, dont le jacobinisme est l'expression achevée, il y avait préalablement à cela, et de mon point de vue, quelque chose qui est en gestation actuellement, eh bien, un retour de cette dimension symbolique. Pour tout vous avouer, je vais parler maintenant, je l'ai un peu dit ici ou là, du retour du Saint-Empire romain germanique. Hein, oublions le mot germanique, mais gardons ce qu'était au Moyen-Âge le Saint-Empire romain.
L'Europe à 6.
Pardon, c'était...
L'Europe à 6.
Ah, vous défendez l'Europe à 6, le retour
à défaut d'une
Europe
assise.
Non, moi je défends l'Europe telle qu'elle était au Moyen-Âge, c'est-à-dire la vraie réalité, c'était la région, la cité, le canton, etc. Et puis il y avait cette union symbolique, hein, qui était celle de l'empereur, mais qui n'avait aucun pouvoir. Soyons clairs, hein, voilà, bien des égards. Voilà. Et à mon sens, c'est quelque chose... C'est pas l'Europe que l'on connaît qui est l'exportation de l'État, fondamentalement.
Ah bah, bien sûr,
on a fait qu'exporter l'État. Tandis que là, ce qui est en gestation... Vous voyez, ma tendance, c'est que c'est ce qui va se passer. Hein. Je lisais ce matin un article qui avait été fait sur moi par Zeitling, qui est un grand intellectuel anglais, et il me disait, ma Fézoli, vous avez eu tort d'avoir raison trop tôt.
C'est vrai qu'on pourrait résumer la chose
et
ainsi.
En gros,
parce que quand on lit ses mémoires,
par exemple,
c'est frappant. Parce que...
Et dans ce que je dis là maintenant, voilà, c'est un peu quelque chose de genre. Vous avez compris que je m'en fous royalement d'avoir raison.
J'ai bien compris, et royalement est vraiment le mot qui convient. Alors avant qu'on écoute Paul-Marie Couteau, qui à mon avis aura des choses à dire sur le Saint-Empire romain germanique,
je le vois bouillir.
Voilà, nous l'entendrons maintenant dans 5 minutes, ou peut-être même un peu moins. 1. Mais Henri Prévost, alors vous parlez de cette Europe à 6, alors c'est vrai que par rapport à l'Europe à 27, on a presque envie de la retrouver, ça paraît un moindre mal. Mais est-ce que ces constructions supranationales vous paraissent avoir encore un avenir? Est-ce que ça n'est pas dans la nation, par le biais de nos différentes provinces, que peut s'exprimer la diversité? Parce que la France est déjà en soi-même un pays extrêmement divers.
Alors, je ne parlerai pas de la France, parce que pour le moment, la France est un peu comme la bouteille d'Orangina, on est en train de la secouer pour que la pulpe tombe, mais on verra combien de temps elle va encore être secouée. Mais je regarde avec un peu d'intérêt, même beaucoup d'intérêt, les changements qu'on a au niveau du Benelux. En Belgique, on a un Premier ministre qui est Bart De Wever et qui a réactivé le Benelux, il en reparle. Alors pour certains, ça peut paraître désuet, mais ce genre d'action n'est pas dénué de sens. Et pour rejoindre la discussion avec M. Maffesoli, on a une tendance actuellement au niveau du Benelux qui, pour moi, va donner une nouvelle impulsion. Et je vais m'expliquer. Au niveau du Grand-Duc, le Grand-Duc Henri a abdiqué pour Guillaume. Ça s'est fait
pour son fils,
il y a quelques mois. Il prend le rôle avec énormément d'énergie. C'est au-delà du protocolaire, très sincèrement. Et on a quelqu'un de très intelligent qui est très discret, avec un haut niveau de diplomatie, d'intelligence de la diplomatie, soutenu par Xavier Bettel. De l'autre côté, on a en Belgique bientôt une future reine qui va arriver. Et on est en train de la préparer et c'est pas...
Éléonore, c'est ça, de mémoire. Non, c'est pas... Quel est son prénom, pardon, de cette future reine de Belgique?
Alors...
Ah, ça vous...
avec Éléonore, bon, je... Et on a une reine qui arrive aux Pays-Bas également. Donc vous avez la troisième génération qui suit Belgique, Pays-Bas et le Luxembourg qui vient de prendre les commandes. Je pense que là, il y a un exemple à suivre au niveau économique, au niveau diplomatique, mais aussi, surtout au niveau de la dynamique. Et ça, c'est quelque chose d'important qui, pour moi, va donner une impulsion. Parce qu'on voit en France, pour le moment, vous avez actuellement des candidats, plusieurs, 13 à la douzaine chaque jour pour les présidentielles. Je pense que vous allez avoir un fameux souci pour trouver vraiment qui sera le conducteur, parce qu'en fait, on est contre le choix, et c'est pas le choix qui compte. Donc, je pense que, comme le disait M. Maffesoli, il y a un retour intéressant à cette approche.
Ulysse, moi je dirais, pour vous paraphraser, le temps des roses est derrière nous, les roses sont un peu fanées. La rose de mai 81, et peut-être est-ce le temps des lys, en effet. Mais nous allons entendre d'abord le Bobino, et puis ensuite Paul-Marie Couteau.
Dire un mot.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir, parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler... La liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Radio Courtoisie, dans un instant évidemment, Paul-Marie Couteau. Michel Maffesoli, vous vouliez dire un mot auparavant?
Oui, un tout petit mot par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir. Moi, je ne connais pas la situation en Luxembourg, en Belgique, mais par rapport à ce qu'on disait sur la royauté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, je vais encore citer saint Thomas d'Aquin, qui, prenant ce qu'est le mystère de la Sainte Trinité, a montré qu'il y avait une conception du monde qui était l'unité, un cercle fermé. Et puis, ce qu'il appelait qu'à la Trinité, l'unicité, c'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes, si je puis dire. Et pour moi, c'est ce glissement de l'unité qui a caractérisé la modernité. Je rappelle qu'Auguste Comte, définissant la société, disait « reductio ad unum ». À la fin, le 19e, on réduit à l'un de l'individu, l'un de l'État-nation, etc. Alors que l'unicité, moi, c'est ce qui va être en gestation dans la pré- et post-modernité, à l'image de ce que le mystère de la Sainte Trinité. Oui, c'est-à-dire un seul Dieu en trois personnes, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ça tient quoi qu'il y ait des diversités. Voilà.
Ça, c'est l'une des grandes idées que l'on retrouve dans Mes Tribus, qui est vraiment un livre intéressant, surtout quand on ne connaît pas bien votre œuvre, parce que finalement, on peut l'aborder par ses différents aspects. Mais je salue de nouveau Paul-Marie Couteau, s'il nous entend.
Vous êtes là. Je vous écoute, même. Je vous entends.
C'est formidable. Alors, le Saint-Empire romain germanique, peut-être, pour commencer, ce nouveau Moyen-Âge.
Plusieurs choses. Je ne veux pas croiser le fer avec Michel Baffet-Soli, d'abord parce qu'il manque un élément important de tout symposium, c'est-à-dire le vin blanc.
Donc, ah oui, je l'ai dit.
J'ai entendu le rappeler. Donc, pas question de dire des choses sérieuses tant que nous n'avons pas du, l'excellent vin blanc que l'on sert quelque part à Boulard-Saint-Michel.
Legenswiller.
Edelswiller.
Des délicieuses femmes qui est en plus une excellente cuisinière, enfin, qui a toutes les vertus. Je sais qu'elle est protestante et qu'elle est énarque.
La pauvre.
À péché miséricorde, vous êtes chrétien. Oui. Alors, dire tout de même à votre invité belge, Prouvot, je crois.
Prévost, que
parmi les vertus que l'on peut accorder à la monarchie, je suis très heureux d'ailleurs que tout le monde soit monarchiste ici, plus ou moins, enfin invoque l'hélice, c'est mon cas depuis longtemps, il y aurait certainement ou probablement plus de Belgique sans un roi. Sans roi.
Juste.
Elle a fait éclater à plusieurs reprises l'élément d'unité, mon cher compatriote, si je peux dire.
Ah oui, c'est vrai, vous descendez d'un baron belge, on peut le dire.
Oui. J'ai même le titre, mais enfin, je le cache parce que je ne peux pas dire grand-chose des barons belges, il y en a beaucoup. Le fait est que ce roi-là, qui n'a pas fait grand-chose, mais qui était là, a permis à la Belgique de ne pas exploser, ce qui était d'ailleurs à l'ordre du jour au début de ce siècle. Deuxièmement, sur le Saint-Empire, vous me commandez là-dessus. Cher Michel Maffesoli, Saint-Empire, vous avez l'air de penser que l'État est détruit, mais qu'à moitié, et qu'il est repris à une échelle plus large, qui a l'air de vous faire plaisir. Mais je crois qu'une succession d'administrations, mon cher Michel, mon cher maître, ne fait pas un État. Et une succession d'administrations à la mode bruxelloise ne fait pas un État. Non, il n'y a pas un État plus grand. Il y a la destruction des États européens, ce qui permet d'ailleurs aux grandes puissances de ce monde, notamment aux États-Unis, de régner sans partage sur les affaires internationales, ce qui n'était pas le cas quand la France avait un État, et que l'État avait un chef, pour reprendre à l'envers une formule du général, la France se mêlait des affaires du monde. Maintenant, on a détruit votre État que vous regardez de travers, cher maître, mais grâce à ça, les États-Unis règnent sans concurrence. Si, mais hélas, cette concurrence, elle ne vient pas des rivages européens qui sont à peu près submergés de mille façons, mais de plus lointains rivages, que ce soit la Chine ou l'Iran, il reste de l'Europe, pratiquement le seul État qui tienne debout, et la seule chose qui puisse encore représenter l'Europe, c'est la Russie. Mais peut-être pourrions-nous nous aventurer sur des terrains qui nous entraînaient dans longue conversation. J'aurais voulu dire un mot, mais je ne sais pas si j'ai envie de dire un mot à Michel Maffesoli, peut-être lui dirais-je ailleurs, justement avec du vin blanc à la main, sur l'encyclique papale que j'ai beaucoup aimée, parce qu'elle m'a rappelé d'ailleurs une partie des conversations que nous eûmes, cher Michel Maffesoli, pour TVL, que nous avions intitulé ensemble « La modernité, c'est fini ». J'ai l'impression que le pape dit « L'idolâtrie de la modernité, c'est fini ». Parce qu'à travers cette contestation d'un abus de l'IA, il y a la contestation d'un abus de la machine et d'un abus de la modernité dont Bernanos disait cette phrase qu'il faut rappeler sans cesse et que l'encyclique rappelle. Donc je suis très heureux de voir le pape rappeler Bernanos, repris par Mauriac et bien d'autres. Le monde moderne est une conspiration permanente contre la vie intérieure. Et ces fameuses machines, alors, c'est pas simplement l'IA, mais d'ailleurs, on est dans l'IA depuis longtemps. Le GPS, c'est une forme d'IA, hein, vous savez, il ne faut pas non plus s'affoler. Ça a conduit à un appauvrissement de l'homme, qui est notable à peu près partout, et peut-être même un appauvrissement général. Enfin, il y a le déclin cognitif, il y a le déclin de l'amour aussi.
On perd la carte.
Et valeurs, oui, et on perd la carte. Et on perd le territoire, comme dit l'autre. Et ce n'est pas secondaire, il y a mille choses à dire de tout cela. Je pense qu'il est très utile que le pape ait rappelé ça, dans une période où la déréliction est immense et où l'Occident casse la figure, et je répéterai sans cesse qu'il faut que la France latine, chrétienne et catholique reste à l'écart de cet Occident, y compris le Saint-Empire occidental. Vous voyez ce que je veux dire. À propos de la pauvreté, d'ailleurs, je voudrais verser, je vous ai dit ça par téléphone, Valentin, ça vous a frappé, et nous sommes convenus que je rappellerai une anecdote qui s'est passée il y a quelques jours, dans les derniers jours du mois de mai, à Trégnac, où je ne suis pas, comme Michel Maffesoli, au sud du Massif central, je parle un méridional du Massif central, mais un occidental en Corrèze. Enfin, c'est quand même le Massif central. Bref, petit village où je faisais mes courses dans un de ces supermarchés qui absorbe complètement la vie économique du centre du village. C'est déjà une perversion et grave. Et je disais à la caissière, mais qu'est-ce qu'il y a comme monde aujourd'hui ? Elle me dit, ben oui, évidemment, c'est la fin du mois. Bon, c'était il y a 8 jours. Je n'ai peut-être pas compris tout de suite, donc je l'ai regardé un peu interloqué. Elle me dit, mais vous savez, vous seriez venu il y a 8 jours, il n'y avait personne. Avant la paye, il n'y a personne. Et quand la paye commence à arriver, vers le 24-25 de chaque mois, et ben on va faire les courses. Et après, on se serre la ceinture quand on n'a plus grand-chose qui arrive le 15 ou le 20 du mois. C'est vous dire qu'il y a un appauvrissement tout de même qui n'est pas secondaire, dont on n'a pas vraiment conscience à Paris, mais qui compte beaucoup dans le paysage, y compris dans le paysage rural.
Mais vous le mesurez alors, sans doute à Gressessac, Michel Maffesoli.
Est-ce que je réponds à notre ami?
Vous pouvez, bien sûr, parce que sinon on ne va pas avoir le temps.
Non, on va pas avoir le temps.
Si, allez-y.
Juste deux mots. Hein. Le premier, l'Empire, le Saint-Empire romain. Voilà. Soyons clairs, moi, j'ai lutté, j'ai écrit contre ce que j'appelais la pro... Bruxelles comme étant la projection de l'État. Français, allemand, machin chose, etc.
Et que... L'administration, surtout.
Oui, oui, j'entends, mais c'est-à-dire qu'on a copié un modèle étatique, hein, en gros, avec cette dimension assez fermée. On en rediscutera, mais pour moi, ce qui est en gestation, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que je prends cette métaphore du Saint-Empire romain germanique, hein, quelque chose...
C'est les provinces, en réalité.
En gros, c'est ça.
Moi,
à mon sens, c'est ce qui va se prévaloir. La région... le canton, la cité, vous voyez, des trucs dans ce genre, c'était ça le Moyen-Âge. Hein.
Et il y avait cette
union symbolique. Alors, pour tout vous avouer, bien sûr, c'est pas Bruxelles, moi je suis contre Bruxelles à mort, moi c'est Strasbourg qui m'intéresse.
Il faut
qu'on revienne à Strasbourg, c'est-à-dire Strasbourg.
c'est la ville de tous vos bonheurs.
En gros, là où j'ai aimé, j'ai été aimé. Strasbourg, c'est justement cette espèce de relation entre une série d'entités qui étaient très diverses. Hein. Quand on regarde ce qui s'est passé, les petits duchés, comtés, machin chose, etc. Et Strasbourg avait cette dimension. Voilà, je vais pas aller plus avant, mais de mon point de vue, c'est ça. Et bien sûr, c'est pas le modèle USC. Pour moi, les États-Unis, c'est les bâtards de l'Europe. Ils sont en train de cesser d'être, et Dieu merci. Voilà, on en parlera une autre fois.
Alors,
sur le pape, la liaison sur le pape. Hein. Je suis bien sûr contre ce pape, il faut m'excuser. Ah. Hein, je suis un catholique traditionnaliste, et donc je n'aime pas du tout ce pape, comme je n'aimais pas le précédent, que je ne nomme jamais et que je n'nommerai pas. Vous savez que dans mon livre précédent, Apologie, je parle de mes rencontres avec Benoît XVI, qui m'a reçu. Hein, à Rome, etc. Bah. Alors, soyons clairs, Léon XIV, c'est ça. Hein. Pendant un moment, j'ai eu de l'espoir, c'est-à-dire Léon XIII. Et le problème, c'est que Léon XIII a deux encycliques, Rerum Novarum et Aeternae Patriae. Aeternae Patriae, où il justement célèbre Saint Thomas d'Aquin, etc. Et puis Rerum Novarum, que j'ai jamais aimé, je me souviens l'avoir cité quand j'étais jeune, c'est justement ce que copie Léon XIV.
Oui, c'est la doctrine sociale de l'Église.
On n'a rien à foutre de ça. C'est pas le métier de l'Église de s'occuper de ça. Voilà ce que je peux dire. Et que les encycliques, il ne s'agit pas d'ajuster l'Église au monde, et je me tais, mais ajuster le monde à l'Église. Voilà ma grosse différence.
Paul Marie.
Il laissait encore ce pauvre garçon d'ajuster l'Église au monde, hein, sur un problème. Il n'a pas tort, en plus, il a Je ne l'ai pas lu, je ne la lirai pas.
C'est une réflexion passionnante, vraiment, et de grande profondeur.
Pas, je la
vous devriez
je
la lire.
Pas, si, non, si, je, on me l'a proposé il y a 2-3 jours, je ne la lirai pas.
Dans nous reparlerons, Valentin.
On peut toujours demander à l'intelligence artificielle de le faire.
Ne serait-ce que dans le nouveau conservateur, nous en reparlerons dans l'encyclique.
Non, moi, je ne suis pas conservateur. Je dis toujours que je suis réactionnaire, mais pas conservateur. Joseph de Maistre. Voilà.
Encore une différence entre vous deux, Paul-Marie. Pour les 5 dernières minutes.
Alors, en fait, de conservation et de campagne et de ruralité, nous avons une autre conversation, Valentin, et elle peut conclure celle-ci. Cressessac, Trégnac, tous les bons Français, tous les bons Parisiens, pardon, oui. ont une maison de campagne. Et le général de Gaulle avait une maison de campagne, la Boisserie, vous m'entendez venir, sujet auquel vous avez consacré un très bon article, mon cher Valentin, dans Valeurs Actuelles, à propos d'un projet de vente qui m'a l'air d'être, oui. hélas, assez avancé par les enfants, je dirais, plus, très indignes du général de Gaulle, qui ne veulent pas la garder, alors qu'à plusieurs, ils pourraient très bien le faire, ce n'est pas non plus le château de Versailles. Et vous dites qu'heureusement, le département serait candidat au rachat, et c'est normal, parce que ça fait partie du patrimoine de la Haute-Marne. Mais oui. ce que vous ne savez pas, je suis content de vous apprendre quelque chose, Valentin. Vous avez appris tant de choses, et notamment sur Colombet, dans ce papier de Valeurs Actuelles dont nous parlons. Ce que vous ne savez pas, et ce qu'on ne savait pas, que j'ai lu en lisant la magnifique, incontournable, définitive, peut-être pas, mais presque pour l'instant, biographie du général de Gaulle par Jean-Luc Barré, c'est que. Et ça va intéresser tout le monde, je pense, et Michel Maffesoli notamment.
Et Henri Prévost, qui est un grand gaulliste, on peut le dire.
Ah, bah alors, voilà, écoutez.
Il peut le dire alors, aussi.
C'est parfait. Mais quand on est monarchiste, on est gaulliste.
Ou en tout cas, oui, ça va ensemble, c'est vrai. Oui.
Gaullistes qui ne sont pas monarchistes, ça ne vaut rien. C'est comme les souverainistes qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. C'est des souverainistes en peau de lapin, les gaullistes non monarchistes sont des gaullistes en peau de lapin. Bon, c'est justement l'article que j'écris en ce moment. Mais. Figurez-vous que cette boisserie fait d'autant plus partie du patrimoine de la Haute-Marne que de Gaulle et sa famille, en 1934, ont succédé à des gens formidables à la boisserie. Alors certes, la propriété, c'est une vieille dame prénommée Alice, je ne sais plus son nom de famille, qui voulait s'en débarrasser depuis longtemps et qui en attendant le louait. Alors elle a fini par le vendre en 1934 au de Gaulle, qui était charmé.
En viager d'ailleurs.
En viager. Oui, en plus, j'ai eu la bonne idée de mourir assez vite. Donc c'est
une c'était une bonne opération, oui.
Moi, j'hésite beaucoup avec le viager. Je ne pense pas que je m'invente de telles choses. Il est tellement facile d'assassiner les gens aujourd'hui.
Ah non, ne dites pas ça à l'antenne.
Ah bon, d'accord. Oh, ben écoute, il faut bien quitter ce pauvre monde, laisser son pauvre corps à ce pauvre monde. Bref, auparavant, Alice louait la propriétaire de la boisserie. En fait, de la brasserie qui était une brasserie que l'on a rebaptisée Boisserie, et qui était mal foutue. Quand les De Gaulle l'ont achetée, il n'y avait pas d'électricité, sauf dans 2 ou 3 pièces. Il n'y avait pas l'eau. Le fils de Gaulle raconte qu'il fallait prendre des bassines pour aller chercher l'eau au village, parce qu'il n'y avait pas l'eau courante. Bref, et Barré écrit ceci. Les De Gaulle, nouveaux propriétaires de la boisserie, passent outre ces inconvénients, ce que je viens de dire, conquis d'emblée par le charme de cet ancien pavillon de chasse à la façade couverte de vignes vierges et la beauté ascétique des paysages alentours. Comme l'ont été les résidents précédents, un couple d'intellectuels franco-américains, on apprend qu'il y a des intellectuels américains en passant, bon, enfin, ça peut-être.
Mais ils étaient franco-américains.
Voilà, ça les a sauvés. Un couple d'intellectuels franco-américains, Eugène Jolas et Maria MacDonald, elle devait être plus écossaise qu'américaine en fait, fondateur à la fin des années 20 d'une revue d'avant-garde internationale qui s'appelait Transition, en partie conçue et dirigée sur place, c'est-à-dire à la boisserie, puis imprimée à Saint-Dizier, non loin de là, préfecture de la Haute-Marne. Des amis de tout le Gotha dadaïste et surréaliste, éditeurs entre autres de Joyce, c'était des Joycistes fanatiques.
Vin blanc.
Tels que Ezra Pound, Gertrude Stein, Philippe Soupeau et André Gide, dont certains étaient venus à la boisserie en week-end, n'en sont jugés d'ailleurs le séjour quelque peu ascétique. Donc, vous voyez, c'est assez amusant que la
très boisserie... intéressant,
oui. Vous avez oublié ça dans votre article.
Ah oui, je ne l'ai pas dit, ça. C'est vrai que je ne le savais pas. Pourtant, j'ai beaucoup aimé la biographie de Jean-Luc Barré, mais bon.
Foisonnante, elle est formidable.
Très, très bien. Oui, oui. Il vaut beaucoup mieux que celle de cet Anglais dont on a tant parlé, Julian Jackson, qui est bourré d'erreurs.
Il l'a fait en dépit du bon sens.
Bien sûr, bien sûr.
De celle de la couture sur le doigt du pantalon.
Oh là là, oui. Bon, très bien, Paul Barry. Ben, merci pour cette information. C'est vrai, parce qu'on parle toujours de la vieille dame et on ne parlait pas beaucoup de ce couple franco-américain qui aime Joyce, qui est un auteur pourtant pas simple, comme on dit, pas facile à lire. Mais pour cette dernière minute, bah, permettez-moi d'abord de vous remercier, Paul Barry, pour cet éclairage, de remercier aussi Henri Prévost, qui a fait le déplacement depuis le Luxembourg, pour nous parler de ces États qui sont à nos frontières, je pense notamment à la Belgique, qui a beaucoup à apprendre à la France, parce que c'est bien d'avoir un regard voisin sur soi-même.
On voit, le succès des artistes
très
belges.
Très cousin et même fraternel. Et puis évidemment, Michel Maffesoli, je rappelle ce livre, Mes tribus, formidable. Il faut le lire évidemment avec son premier tome, Apologie, aux éditions du Cerf. Un ouvrage vraiment où on peut découvrir votre pensée. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on n'a pas eu le temps de parler par exemple de cette petite place magnifique à Montpellier où vous retrouviez Valérie Larbeau, que vous avez tant aimé dans ce sud de la France, très intéressant. Voilà, chers auditeurs,
je cite quand même James Joyce dans ce livre, qui était un ivrogne comme moi et qui disait: le vin blanc c'est l'électricité de l'esprit.
Voilà, magnifique conclusion, à la semaine prochaine avec Guillaume de Thieulois.
Merci.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur, dirigé aujourd'hui par Valentin Gore, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 3 juin 2026, de 16h à 17h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 6€. De 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.